Fichier 8.
Le chien guide, la prunelle de mes yeux. Chapitre 7. Le chien guide et la loi. Il a fallu plus de 30 ans, après les premières remises de chiens guides, pour que la loi autorise leur accès dans certains établissements. Beaucoup d'autres avancées réglementaires ont eu lieu depuis. Les associations se sont battues pour cela. Aujourd'hui, les chiens guides sont acceptés partout et les refus d'accès deviennent rares. Avec la participation experte de Michel Rossetti, maître de chien guide, vice-président de la FFAC, et Dominique Latger, maîtresse de chien guide, présidente de l'ANM Chien Guide, l'Association nationale des maîtres de chien guide.
Description des illustrations. Photo d'une famille d'accueil dans la banlieue lilloise, attablée dans un restaurant, face à une jeune femme brune portant un pull en laine rouge. Elles boivent ensemble un café en mangeant une pâtisserie. Le labrador dont elle est famille d'accueil porte un gilet bleu. Il est sagement couché au pied de la table. Il nous fait face. Au sommaire de ce chapitre,
la loi et son application. Prendre les transports avec son chien guide. Les combats qui restent à mener. Ce que dit la loi aujourd'hui. L'accès des chiens guides aux lieux publics en quelques dates.
Témoignage. Dominique Latché.
Depuis l'Antiquité romaine, les non-voyants ou malvoyants se font guider par des chiens. Dans les siècles passés, les maîtres les formaient eux-mêmes au guidage, non sans succès. Les conditions de circulation n'étaient certes pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les trottoirs, pas autant encombrés, et les contraintes et devoirs des maîtres à l'égard des chiens, pas aussi nombreux. Dans les années 1970, raconte Michel Rossetti, beaucoup d'écoles se sont créées à l'initiative du Lions Club et avec l'aide de groupes locaux bénévoles. On remettait donc des chiens à des non-voyants, mais il n'y avait aucune réglementation.
Il fallait négocier à chaque fois qu'on voulait entrer dans des lieux publics ou prendre les transports.
Regroupés en association, les maîtres de chiens guides ont obtenu du législateur qu'ils prennent en compte leur droit à accéder partout avec leurs chiens. Ces avancées se sont accompagnées de contraintes nouvelles. Le chien guide a dû apprendre à ne pas renifler la marchandise et à se faire discret. Le maître aussi s'est vu confronté à des exigences nouvelles, comme le souligne Dominique Latger. Le chien guide est aujourd'hui autorisé dans les parcs et jardins publics, mais sous certaines conditions. Il doit être clairement identifiable comme chien guide et il vaut mieux qu'il ait fait ses besoins auparavant.
Description des illustrations. Betty, une maîtresse de chien guide d'une soixantaine d'années, cheveux blonds courts, tenant un sac à l'épaule, s'apprête à entrer dans une boutique de Nice guidée par son caniche royal Okapi qu'elle tient au harnais. Dans la vitrine et devant l'entrée de la boutique, on voit des panneaux publicitaires rouges.
La loi et son application. Ce n'est pas parce qu'une loi existe que tout le monde la connaît et l'applique. Les maîtres de chien guide sont bien placés pour le savoir. Combien d'entre eux doivent encore batailler à l'entrée d'un supermarché ou d'un restaurant pour pouvoir y entrer avec leur chien? Ces refus d'accès font parfois l'objet d'un article dans la presse locale et créent l'émotion. Mais si les gens se mobilisent, ils oublient vite. C'est le constat de Michel Rossetti, qui préfère utiliser ce genre de publicité avec parcimonie. Nous nous sommes rendus compte que c'était plutôt contre-productif de médiatiser les refus d'accès. Cela décourageait plutôt à prendre un chien guide, si c'était pour être embêté. L'Association nationale des maîtres de chiens guides, l'ANM Chien Guide, privilégie, elle aussi, la pédagogie. Nous organisons des visioconférences tous les mois avec des personnes adhérentes ou non, afin de parler des problèmes rencontrés, explique Dominique Latger.
Nous n'enregistrons plus qu'une soixantaine de refus d'accès par an. Les maîtres ont appris à se défendre et la majorité des commerçants connaissent la loi.
Ils la connaissent grâce à la communication menée depuis plusieurs années auprès des fédérations professionnelles et des grandes enseignes sur le thème des droits et devoirs réciproques. Car les maîtres ont aussi des devoirs. Le chien guide doit être propre. Il ne monte pas sur la banquette dans les taxis, n'entrave pas le passage dans les transports. Encadrer pour aller plus loin. Prendre les transports avec son chien guide. Les conducteurs de taxi peuvent refuser une personne accompagnée d'un animal, sauf s'il s'agit d'un non-voyant accompagné d'un chien guide ou d'un chien d'assistance. Aucune surfacturation n'est autorisée. Depuis juillet 2014, dans les trains n'offrant pas suffisamment de place pour un chien sous les sièges, le personnel doit proposer, dans la mesure des disponibilités, un des sièges dédiés aux personnes en fauteuil ou un siège de première classe à côté duquel le chien pourra se coucher. Depuis 2006, le règlement européen stipule que les compagnies aériennes sont tenues de prendre en charge en cabine tout chien d'assistance accompagnant une personne handicapée. Le commandant de bord reste cependant maître dans son avion, selon le code des transports, et peut exiger que le chien porte une muselière ou soit attaché. Depuis 2007, les compagnies maritimes sont tenues d'accepter les chiens d'assistance sans facturation supplémentaire. Les combats qui restent à mener. Les droits d'accès de gratuité accordés aujourd'hui aux chiens guides dépendent en fait de la carte d'invalidité du maître. Michel Rossetti souhaiterait aller plus loin. Il faudrait une loi sur le chien d'assistance lui-même, qui lui conférerait un véritable statut en tant que chien éduqué et certifié. Une loi qui réunisse également tous les textes. Car aujourd'hui, il y a l'exemption du port de la muselière, l'accès dans les hôpitaux, dans le code de la santé publique, l'accès au navire encore dans un autre code. Accorder un véritable statut au chien guide lui permettrait de conserver ses droits, après sa période d'activité. C'est important pour les familles de retraite et pour nous que le chien garde ses droits, insiste Dominique Ladjé. Nous y voyons une manière d'honorer le travail accompli pendant toute sa période d'activité. Reste également à régler la question de la garde du chien guide dans certains lieux, comme les infrastructures sportives. Nous pouvons entrer à la piscine avec notre chien guide, mais que fait-on de lui le temps de la baignade ? S'interroge Dominique Ladjé.
Ces établissements sont tenus d'accepter le chien, mais comme aucun texte ne les oblige à en organiser la garde, le problème de l'accès subsiste. Souvent, seule la négociation permet de trouver une solution.
Encadrer pour aller plus loin. Ce que dit la loi aujourd'hui. L'accessibilité des chiens guides dans les lieux publics est régie par deux articles de la loi numéro 87-588. L'article 88. L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative, est autorisé aux chiens guides d'aveugles ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion, CMI, prévue à l'article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour une personne handicapée, prévue à l'article L241-3-1 du même code, ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation. La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. L'article 53. Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal, sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public, ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. L'accès des chiens guides aux lieux publics en quelques dates. 1982. 30 ans après la première remise d'un chien guide en France par Paul Corteville, l'Association nationale des maîtres de chiens guides obtient une modification des règlements sanitaires départementaux permettant l'accès des chiens guides dans les commerces d'alimentation et les restaurants. 1983. La RATP lève toutes les restrictions de circulation pour le maître et son chien guide sur l'ensemble de ses réseaux. Certaines dérogations pour l'accès dans le métro existaient certes depuis 10 ans, mais de 9h à 16h et après 20h seulement, ce qui pénalisait les maîtres en activité. 1984. Une circulaire émanant du ministère de la Santé et signée par le directeur des hôpitaux autorise l'accès aux chiens guides dans les centres de soins, sauf dans les salles de soins et les chambres des malades. Ce libre accès sera confirmé en 2003 par un article spécifique publié dans le Code de la santé publique. 1987. Soutenue par la FFAC, l'Association nationale des maîtres de chiens guides mène une campagne auprès des parlementaires et décideurs. La mobilisation aboutit au premier texte de loi autorisant le maître et son chien guide à entrer dans tous les lieux ouverts au public. Il faudra attendre janvier 1993 pour qu'un nouvel article précise les sanctions encourues en cas de refus d'accès, une amende de troisième classe. 2000. Une convention est signée avec les autorités des transports publics, et notamment la SNCF, pour autoriser les chiens guides en éducation à prendre le train gratuitement. 2005. La nouvelle loi sur la citoyenneté des personnes avec un handicap précise que l'aide animalière au sens large, et plus particulièrement celle des chiens d'assistance, est considérée comme une compensation du handicap. C'est une grande victoire qui entraîne la gratuité totale pour le chien guide accompagnant son maître dans ses activités, l'obtention d'une aide pour l'entretien du chien, la dispense du port de la muselière dans tous les lieux accessibles, dès lors que le chien guide a reçu une éducation le rendant apte à guider son maître et par ricochet, la labellisation des centres d'éducation. 2014. Tous ces droits acquis aux chiens guides en activité sont étendus aux chiens guides en formation. Un certificat national d'identification leur est remis, qui atteste de leurs droits. Cette nouvelle disposition relative à l'accès des chiens en éducation est définitivement consacrée par la loi en 2015. 2015, la FFAC et l'Association nationale des maîtres de chiens guides créent l'Observatoire de l'accessibilité des chiens guides, OBAC, afin d'œuvrer pour une meilleure application des droits qui leur sont reconnus. Le projet est repris en juillet 2019 par CANIDEA, Confédération nationale des organisations de chiens d'aide à la personne, et étendu aux chiens d'assistance.
Description des illustrations. Betty et son chien guide Okapi, caniche royale, sont dans un bureau de poste niçois, devant un guichet. Le chien est assis au pied de sa maîtresse. Témoignage. Dominique Latché. Dominique Latché a reçu son premier chien en 1978, un beau sauron trouvé dans une ferme par ses parents. À l'époque, les chiens guides n'étaient autorisés nulle part, mais personne ne songeait à leur interdire d'entrer tant ils étaient rares et vus comme de véritables curiosités.
À l'époque, nous ne pouvions entrer nulle part.
J'avais vu un chien guide quand j'avais 6 ou 7 ans et m'étais juré d'en avoir un. Ça a été le cas à la fin de mes études, en 1978. Un beauceron que mes parents avaient trouvé dans une ferme et qui avait été éduqué par un particulier ayant quelques notions. Le chien a travaillé jusqu'à ses 12 ans. Il n'était pas castré et marchait à toute allure, mais j'étais jeune. À l'époque, on demandait beaucoup moins aux chiens guides. Les conditions de circulation étaient très différentes, les trottoirs mieux marqués. Il n'y avait pas ces zones plates en centre-ville où le chien se perd et où nous devons être toutes antennes déployées. Nous n'étions autorisés nulle part, mais nous allions partout. Un chien guide était alors encore vu comme une bête curieuse. Les commerçants ne songeaient même pas à nous interdire d'entrer. Je viens de recevoir mon 6e chien, qui doit cohabiter avec le précédent. Je les ai tous gardés jusqu'à la fin de leur vie. Mon 5e chien n'est de toute façon pas adoptable, car il souffre d'un cancer. Il n'a pas bon caractère. Il a fallu trouver un nouveau chien qui lui plaise. Ça n'a pas été facile. Mais ce chien m'ayant guidé de manière inconditionnelle et généreuse pendant des années, je lui dois de l'assumer jusqu'au bout.
Description des illustrations. Illustration à l'aquarelle montrant Dominique Latché aux cheveux blonds courts, courant dans la rue gaiement, tenant au harnais son beauceron noir et feu. Le chien guide, la prunelle de mes yeux. Fin du chapitre 7.